Donnez-nous votre avis sur Beta Série La Radio et ses podcasts. Participez à notre sondage sur radio.betaserie.com.
Thank you, my babies.
Oh my God. L'émission décomplexée sur les séries, présentée par Eric Maillard et sa bande sur Beta Série La Radio.
Bonjour et bienvenue dans Oh My God épisode 6. Ici, on continue à assumer nos choix, qu'ils soient ou pas dans la tendance. Et on n'oublie pas que les séries, c'est avant tout une histoire de kiff. Et en parlant de kiff, merci à tous ceux qui ont profité de cette période de confinement pour rattraper leur retard sur les premiers épisodes de Oh My God. Si j'en crois vos commentaires, on vous a fait rire, on vous a énervé, vous aviez envie de continuer le débat avec nous, et ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on veut. Nous, on a un peu vécu notre meilleur confinement, hein, on va être clair, avec des nouveautés enthousiasmantes sur MyCanal, OCS, Netflix, Prime Video, des petites pépites qui nous ont cueillies par surprise sur Apple TV+. Une âme d'enfant retrouvée grâce à Disney+, et en prime les docs de National Geographic que moi, petit perso, je kiffe. Bref, on va avoir de quoi échanger avec les copains confinés, mais tous de retour. Salut les amis.
Salut.
Ils sont confinés et parfois mutés, donc on risque d'avoir des petits décalages de retour son, mais ça va bien se passer. Elle nous a offert des petits quiz Instagram passionnants sur le cinéma. Est-ce que ça lui a laissé assez de temps pour regarder des séries? Elle va nous répondre, c'est Émilie Lopez.
Bonjour. Salut. T'es beau comme ça, j'aime bien ta petite queue.
Ouais, t'as vu, mais elle est de moins en moins petite.
Hein, on démarre pas. Ouais,
le niveau, il est là.
C'est sur TMZ qu'elle va chercher les infos sur le monde dans lequel on vit, comme pour valider que la réalité dépasse souvent la fiction. C'est Virginie de Closade.
La réalité dépasse toujours, forcément, la fiction. Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous voir.
Nous aussi, on est contents de te voir. Dans ta vie, ça, c'est sûr que la réalité doit dépasser la fiction, on te croit.
Bah, attends, je m'y astreins quotidiennement.
Aucun doute. Il nous a tous convaincus de regarder Narcos, mais il n'a pas gardé la moustache maintenant. On est en mode barbe. On est très déçus. C'est Céline Niederhofer.
Mais bonjour à tous. Je suis très déçu moi-même. Il y a une explication à ça. Quelqu'un dans cette maison a cassé ma tondeuse. Donc, du coup, je n'ai pas pu me raser. Donc, la barbe pousse. On verra. Le jour où on pourra retourner chez le barbier, on verra.
J'ai connu le problème. Ma première réaction du déconfinement, ça a été Darty, tondeuse directe. Sa passion pour les seconds rôles qui finissent toujours par mourir dans d'atroces souffrances reste un des plus grands mystères inexpliqués à ce jour, c'est Fabrice Dupreuil.
Salut, et j'espère être pas en second rôle parce que sinon vous ne me verrez pas la prochaine fois. Mais je vous envoie, je suis content de vous voir.
On va te garder, on n'est pas comme ça. Bon, comment ça va cette sortie de confinement?
Bah, on n'est pas vraiment sorti.
Non.
Bah justement, nous, non. Deux. On est en demi-sortie, on est en des séries, comment on fait?
On reste confiné encore un petit peu, on va attendre un petit peu que ça se calme.
Ouais, alors moi j'avoue que quand même, premier jour, je suis sortie, mais grave, j'ai marché, j'en pouvais plus, j'étais voir la scène, je suis parisienne, je voulais avoir de ses nouvelles, comment va-t-elle? Elle est toujours là.
Il y a toujours pas de gens qui le font.
Ah non, j'adore marcher. C'est ma grande passion dans la vie, marcher dans Paris, quoi. Et là, ça fait quand même 2 mois que je n'ai plus pu marcher. Donc, j'ai été faire mes 10 bornes à pied, heureuse, en traînant mes enfants, qui pour une fois étaient contents de sortir. Et donc, je vous assure que toutes les rues de Paris vont bien. Je suis contente.
Bon, je me demande si on parle sortie dans Paris ou série. On va peut-être attaquer sur les séries. Allez, c'est parti.
Oh my God.
Le débat du jour s'intéressera au girl power, avec ces séries qui ont pour principaux personnages des femmes. Et ce sera juste après les chroniques audience et carte blanche en milieu d'émission. Mais comme chaque mois, on s'intéresse d'abord aux coups de cœur.
Oh my God, les coups de cœur du mois.
Et on commence direct avec Selim, qui a craqué pour une série OCS, je crois.
Oui, complètement. Coup de cœur pour The Plot Against America. En gros, je me suis dit, je suis comme Alain Chabat dans le Burger Quiz. Je trouve que les nazis, ça fait toujours de superbes histoires à la télé et dans les films. Et cette fois-ci, on les retrouve dans l'Uchronie, The Plot Against America, donc qui est disponible sur OCS. L'Uchronie, c'est un peu le thème du moment. On part de faits historiques réels pour inventer une histoire alternative. Alors, avec Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino au cinéma, Sharon Tate, elle serait toujours vivante. Et avec la série Hollywood de Ryan Murphy, les minorités auraient pris le pouvoir dès les années 50 lors de l'âge d'or du cinéma. Ce qu'il y a de très fort dans les Uchronies, c'est toujours de retrouver les faits réels. Alors, dans la mini-série de HBO, The Plot Against America, on suit la vie d'une famille juive américaine qui se déchire à cause de la guerre que mènent les nazis en Europe. Le pitch, il est simple. Que se serait-il passé si les États-Unis n'étaient pas entrés en guerre aux côtés des Alliés lors de la Seconde Guerre mondiale? Si l'isolationniste Charles Lindbergh, il avait été élu à la place du président Roosevelt. Alors, dans la série, Lindbergh, c'est le héros américain, le pilote qui a vraiment effectué le premier vol transatlantique dans son avion Spirit of Saint-Louis en 1927, sans parachute de sécurité, pour alléger son avion comme un vrai héros, surnommé l'aigle solitaire. Il part vivre en Europe après l'enlèvement et l'assassinat de son jeune fils. Ça, c'est la réalité historique. Et c'est à ce moment-là que la réalité et la fiction divergent. Dans la série, Lindbergh y devient donc président des États-Unis et les États-Unis ne rentrent pas en guerre contre Hitler. Donc, on va suivre la vie de cette famille juive qui est déchirée. Il y a le père, la mère, la sœur, les deux gamins qui comprennent pas trop ce qui se passe. Il y en a un qui s'engage. Il y a le cousin qui, lui, va combattre vraiment en Europe pour le Canada. Et il y a ce personnage vraiment fou du rabbin. Le rabbin qui croit bien faire, qui croit protéger sa communauté et qui au final n'est qu'un instrument de la propagande en fait nazie de Hitler aux États-Unis. Le casting, il est vraiment très très bien fait. Il y a Zoé Kazan, il y a Winona Ryder dedans qu'on a envie de gifler. Elle joue vraiment très 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 bien la femme de mauvaise foi. Elle incarne un peu l'ambition et la stupidité en même temps. C'est très beau. Et l'incarnation du diable, c'est John Turturro, un acteur fabuleux qui joue le rabbin. C'est dur de pas réagir, de pas envoyer ses chaussons sur sa télé quand on regarde, parce que c'est crispant de voir toutes ces mauvaises décisions, c'est crispant de voir ces situations qu'on connaît parce qu'on a appris l'histoire et de voir peut-être des situations qu'on vit aujourd'hui. Donc The Plot Against America, c'est disponible sur OCS, et si vous voulez une autre uchronie un peu dans le même genre avec des nazis, que se serait-il passé si les nazis avaient gagné la Seconde Guerre mondiale, ça c'est The Man in the High Castle, et c'est sur Amazon Prime Video.
Alors j'ai une question, tu regardes la télé en chaussons? Non, c'est pas ça. Ma question, c'est combien d'épisodes sur la série?
Oh là, 6 ou 8, je ne sais plus, tu vois, j'ai oublié. D'accord. Déjà.
C'est une
série HBO, oui, ça va assez rapidement, et on suit l'évolution de 40 à 44. Et c'est, moi, vraiment, je suis tombé dedans parce que c'est de l'histoire, et c'est toujours intéressant, la politique, l'ambition, le drame, les trahisons, le sel de la
vie. Juste pour être sûr, là, par exemple, là, tu es en chaussons.
Non, pas du tout. Alors, tu sais, je suis très très souple. Je suis nu et ça n'intéresse personne.
Et juste, personne ne relève le fait qu'il a complètement spoilé Once Upon a Time in America. Ouais. In Hollywood.
In Hollywood, un peu.
J'ai rien dit. Le pitch, il est disponible partout. Non.
Mais t'as spoilé la fin?
Mais il y avait un délai, non? On avait pas un délai de quelques mois.
C'est sorti il y a plus d'un an. On a dit un an, c'est la date. C'est bon.
C'est chaud.
Il y avait un délai à respecter.
C'est bon, ok, ça va, ça passe.
C'est dispo sur OCS, on a le droit.
Ok, ça marche. Ok, on va aller voir ça sur OCS, j'avoue. Moi, j'en avais pas entendu parler, c'est exactement le type de série, de storyline que j'aime. Donc, je vais aller découvrir. Ah ben, moi, j'adore ça, on le sait, on sait que t'aimes pas et que moi, j'aime.
Ah non, c'est pas ça, c'est tellement angoissant le réel, il faut déjà tellement gérer de choses dans le réel que si après, on se met à penser à toutes les histoires potentielles dramatiques qui auraient pu se passer, mais je démarre une panique attaque, là.
Non, mais parfois, c'est pas des histoires dramatiques, ça peut être des histoires qui améliorent le réel. C'est le cas, d'ailleurs. Virginie, tant que tu es également regardé une série OCS.
Une série OCS, Miss America, qui est là pour le coup est une histoire bien réelle, qui suit en fait l'opposition qu'il va y avoir autour d'un amendement américain des années 60, enfin dans les fin 60, début 70, qui est l'amendement qui va amender en fait l'égalité des sexes. Quoi. Et donc s'oppose face à cet amendement une mère de famille de 6 enfants, activiste conservatrice, qui aurait pu être avocate et qui s'appelle Phyllis Schlafly, qui est un personnage réel, et en face d'elle s'opposent évidemment les féministes de l'époque, qui étaient Betty Friedman, qui a écrit... Betty Friedman, qui est un peu la Simone de Beauvoir américaine, si on veut caricaturer, elle a écrit un bouquin fondateur aussi pour le mouvement féministe, et Gloria Steinem, qui elle est quelqu'un d'extrêmement important dans le féminisme, parce qu'en gros, jusqu'à Gloria Steinem, on disait des féministes que c'était des mâles baisés, et que c'est parce qu'elles trouvaient pas de mecs. ou parce qu'elles étaient lesbiennes, que du coup elles étaient féministes. Gloria Steinem étant un petit bijou de perfection physique, une femme absolument magnifique, qu'aucun homme, à part après sa soixantaine, elle s'est mariée, mais jusqu'à ses 60 ans, elle n'a jamais voulu se marier, avec pour réponse qu'elle se reproduisait très mal en captivité, ce qui est plutôt rigolo. Donc elle s'est opposée, c'est toute l'opposition entre le mouvement conservateur et le mouvement féministe, évidemment avec en creux... parce que ce que cherchent à obtenir les féminismes, c'est en fait que le droit d'avorter soit garanti par la Constitution américaine, ce qui évidemment n'est toujours pas le cas aujourd'hui. Et donc on suit ces oppositions. Les actrices sont formidables. Il y a Cate Blanchett qui fait la Phyllis Schlafly, c'est-à-dire la très conservatrice activiste, et on a Rose Byrne que j'adore, que je trouve trop belle, en Gloria Steinem. Et alors la série est super bien parce qu'elle fait 9 épisodes, donc c'est assez rapide, et qu'en même temps on revient sur une période de l'histoire qui est très très importante et qui est pas si lointaine. Et franchement, en fait, jusqu'aux années 60, quoi, on était, nous, je parle de nous, sexe féminin, parce que c'est de la même façon un peu que je l'avais dit sur Visible, qui était un documentaire sur l'émergence de l'homosexualité que Apple TV proposait. Le sexe féminin induit une histoire, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, mais on la supporte toute, cette histoire, de même que l'homosexualité ou n'importe quelle, enfin normalement on devrait pas être une minorité, sachant qu'on est 52% sur la Terre, mais il se trouve que nous sommes encore considérés comme une minorité, et qu'avec notre sexe vient une histoire. Et il est de bon ton de se rappeler que ça fait pas si longtemps qu'on est en pleine possession de nos pouvoirs, en admettant qu'on le soit aujourd'hui. Et cette série a le mérite de rappeler ça très très bien. Et puis tu vois des actrices qui jouent, quoi, c'est-à-dire que ça joue très très bien. Je trouve que c'est un peu posé, les deux oppositions, c'est-à-dire qu'elles ont un peu de mal à se rencontrer, donc on suit les histoires relativement parallèles plutôt que jumelées l'une à l'autre, mais néanmoins, les actrices sont super et l'histoire est très très importante, quoi.
Sachant que le prisme, pour avoir regardé les premiers épisodes, le prisme est d'entrée quand même beaucoup les conservatrices, en l'occurrence. Enfin, c'est ce qui twiste un peu la façon de raconter l'histoire, c'est que
ouais, mais...
on rentre plutôt par cet angle-là que par celui d'une opposition entre des conservatrices et
on rentre d'abord parce que c'est logique dans l'écriture. On est en 2020, la mère au foyer des années 60 de 6 enfants, faut quand même la resituer, cette façon de penser. Puis il se trouve que cette série sort aujourd'hui et le féminisme est très à la mode et Angèle le chante très bien. Top, super, je suis ravie. Mais jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'était quand même, enfin, c'était que des mal baisés, pardon. Moi, j'ai passé mon enfance à entendre que les féministes c'était des mal baisés, et que c'est parce qu'elles n'avaient pas trouvé de mec que, du coup, elles avaient théorisé leur problématique de couple par du féminisme, quoi. Donc, il faut quand même resituer le fait que le féminisme n'était pas cool et que ça fait très peu de temps que c'est devenu cool. Donc, c'est pour ça qu'on passe d'abord par Cate Blanchett, où c'était quand même la majeure façon de penser à l'époque, voire encore aujourd'hui, hein, parce que quand j'entends quand même certains débats autour du féminisme aujourd'hui et le niveau abyssal des mecs qui se sentent menacés parmi tout, voilà, c'était ma conclusion.
moi, je voudrais que tout passe par Cate Blanchett. Voilà, on va partir de ce point. Voilà, je l'aime d'amour. Je trouve que c'est une actrice extraordinaire et elle est magnifique. Donc, faisons tout passer par Cate Blanchett.
C'est intéressant de passer par elle, justement, parce que ça passe des messages, le fait qu'elle l'interprète, parce qu'elle est quand même engagée à titre personnel sur le sujet, et ça donne un petit côté passif-agressif en fait à la série. Au début, en connaissant super mal la vraie histoire, je me demandais où elle allait basculer, quoi, si Cate Blanchett allait revenir et prendre le pouvoir d'une certaine façon. Et ben non, en fait. Ben,
heureusement. Moi personnellement, je suis heureuse d'être sortie de la cuisine, hein, donc.
Merci pour les spoilers. Merci.
Comment ils se mangent.
Parce que la cuisine est contente de nous avoir vu partir, c'est ça? Quel bien fait pour la cuisine?
La mienne est ravie. Alors, la mienne me remet
Ok, après les balades dans Paris, la cuisine, je vous propose de passer à Fabrice, qui a regardé Netflix.
Et oui, j'ai regardé Netflix, j'ai regardé Ozark, parce que j'avais noté que c'était Ozark qui était dans la to-do list de beaucoup de gens la dernière fois, notamment Virginie, Célib, Émilie. Et donc, effectivement, moi, je me suis lancé. Pourquoi? Parce que ça faisait quand même 3 ans que je me disais, j'ai envie de regarder. Alors, il y a un problème avec Ozark, effectivement, c'est que quand on voit cette petite image, etc., ça ne donne pas envie de regarder. Et c'est le problème d'Ozark, parce que dès qu'on s'y plonge, c'est génial. Alors, juste, je vous situe. C'est une série américaine, c'est sur Netflix. Et c'est l'histoire d'une famille, c'est la famille Bird. Il y a les parents et il y a leurs deux enfants qui vont quitter précipitamment Chicago. Pourquoi ? Parce que Marty, qui est conseiller financier, blanchit aussi avec son associé l'argent d'un cartel mexicain. Et donc, ils vont partir dans une région, Ozark. Alors, c'est autour de là que l'ambiance est super. Ils se retrouvent dans une région, comment dire, j'ai essayé de trouver l'équivalent en France. Ça pourrait être le nord du Médoc. Et il y a des sacrés phénomènes dans cette région, et notamment des personnages, mais qui sont géniaux. Pourquoi Ozark ? Il faut le regarder. D'abord parce que le blanchiment d'argent, moi, j'y connaissais pas grand-chose, et que dès le premier épisode, on nous explique ce que c'est. Donc, je me dis, tiens, il y a une reconversion pour moi. Et donc, en fait, je me suis dit, c'est pas mal, parce que ça nous explique de façon très pédagogique et en même temps, de façon très, fiction. C'est très bien représenté. Bien sûr, je vous passe, parce que Céline m'en parle mieux que moi, il y a une excellente scène sur le marketing répulsif, et je vous conseille d'aller voir l'article qu'a écrit Selim là-dessus parce que c'est passionnant et que du coup ça m'a beaucoup passionné. Du coup, voilà, cette série, elle est bien. Pourquoi ? Parce que on va crescendo dans dans quelque chose d'immoral, et on finit par se dire que finalement ce côté immoral, on finit presque par l'accepter tellement ça glisse de plus en plus loin au fur et à mesure des épisodes. Pourquoi j'en parle aussi ? Parce que, et c'est là que je me dis que j'aurais dû regarder avant, c'est parce qu'il y a deux acteurs que j'aime beaucoup dedans, et notamment il y a donc c'est Jason Bateman qui est un acteur formidable qui vaut les plus grands acteurs de Hollywood, même si au cinéma il n'a jamais fait une carrière exceptionnelle, mais c'est un des plus grands acteurs américains pour moi. Il a vraiment ce truc du monsieur tout le monde avec ses petits pantalons en pince et ses chemises Vichy qui lui vont très bien d'ailleurs, mais qui font qu'il a
un monsieur tout le monde bien gaulé quand même, mais ouais.
Oui, il est pas mal pour son âge. C'est un message d'espoir pour moi. Et je me disais que l'actrice c'est Laura Linney, on le dit comme on veut.
Et Laura Linney, c'est une actrice,
voilà, on l'aime d'amour. Alors moi je l'avais découvert, mais je pense comme pour beaucoup, dans Les Chroniques de San Francisco il y a des années. Mais c'est une actrice formidable, d'abord parce que c'est une actrice qui assume son âge, c'est une actrice qui sait tout jouer, et là elle, son personnage est dément parce qu'il y a cette espèce de côté femme un peu passive qui subit un peu les événements, et qui petit à petit va monter crescendo. Je peux pas tout vous dire parce que j'aimerais bien vous en dire plus, mais si je vous le dis, du coup je vais tout dévoiler. Et qu'est-ce qu'on a dit, Céline ? On ne spoile pas. Donc je ne vais pas spoiler. Je vais vous dire juste, vous conseiller de vous lancer. Si le premier épisode vous fait un petit peu peur parce que vous dites, oh là là, le blanchiment d'argent, j'y connais rien, puis la drogue, et puis le cartel, et puis tout ça, ça m'intéresse pas. Laissez-vous porter, vous allez voir, ça va crescendo. La première saison est excellente. Eh bien, je pensais qu'on pouvait pas faire mieux. Ben oui, la deuxième est encore mieux. Et la troisième est extraordinaire. Les femmes, ça c'est pour toi, Virginie, les femmes ont un rôle très important dans cette série. On sent quand même que c'est elles qui prennent de plus en plus le pouvoir et que finalement elles ne sont
depuis
plus.
Depuis toujours.
Mais oui. Mais là, on nous le montre de façon un peu plus réelle. Enfin, bref. Allez voir Ozark, ne vous laissez pas avoir. Moi, je l'ai conseillé à plein de gens. Tous les gens qui l'ont regardé ont trouvé ça super. Je sais que Céline m'a adoré. Je suppose que Émilie, vous avez déjà dû regarder, et Eric peut-être. Mais en tout cas, si j'ai un conseil, moi, c'est sûrement l'une des meilleures séries que j'ai vues depuis le début de l'année, où je me suis dit, tiens, j'ai pas perdu mon temps et je me suis laissé avoir, quoi.
C'est le même problème.
Petit tour d'horizon, tout le monde l'a vu. Céline, tu l'as vu, tu nous en avais parlé.
Oui. Avec le même souci que Fabrice, c'est qu'on a mis 3 ans à le regarder. Ma femme était persuadée que c'était un truc sur les ovnis. Une de ses copines, un truc sur les baleines. Là, il y a un vrai coup de gueule sur les vignettes Netflix qui donnent pas envie. Donc, on a failli passer à côté. Ouais. Si vous avez aimé Breaking Bad, où on suivait la normalité d'un prof de chimie qui devenait Tony Montana à la fin, je pense qu'Ozark, on est parti sur les mêmes bases, et c'est vraiment ultra intéressant, j'en dis pas plus.
Émilie, c'est surtout, tu l'as vu ?
Non, mais c'est surtout la grande gagnante du confinement, parce que je sais pas vous, vos potes, mais moi, tous les potes à qui je parle me disent « Ah bah j'ai commencé Ozark », mais c'est des potes qui se connaissent pas. Donc en fait, j'ai vraiment l'impression que la hype en ce moment, c'est d'avoir regardé Ozark. Et pour ce qui est des petites vignettes, ce qui est assez rigolo, c'est que normalement, c'est censé s'adapter à ce que toi tu regardes, il y a une espèce d'algorithme et tout ça, et pour Ozark, ça n'a marché pour personne. Donc c'est vraiment le bouche à oreille, il y a quelqu'un un jour qui s'est dit « Bah tiens, je vais regarder le truc avec cette espèce de machin là, que personne ne veut voir, alors que ça a l'air pas mal, et puis on aime bien les acteurs », et en fait, à plonger dedans et à passer le mot, j'imagine, parce qu'effectivement, tout le monde a l'air de le découvrir après 3 saisons.
Virginie, tu l'as regardé ?
Je confirme, je suis dedans, moi. Et j'invite tout le monde à la mettre dans Ozark. Je suis dedans. Je suis en train de regarder. Je suis dedans, pas dans les acteurs.
Je joue dedans.
Allez, non, Pardon. Non, je ne suis dans personne, mais je suis dans la série. Et j'adore. Et je suis d'accord, le marketing, c'est quand même très dommage d'avoir un si joli produit et de le gâcher, parce que c'est même pas que tu sais pas le vendre. C'est là le mec qui a fait le marketing autour de la série, il voulait planter le projet. C'est pas possible, quoi.
Si, alors, mais peut-être des conseils à lui donner.
Et donc visiblement être celui que tout le monde déteste cette semaine dans les commentaires, parce que moi, Ozark, j'ai commencé avant-hier, j'ai fait la première saison en 2 jours, je suis d'accord avec aucun des commentaires que j'ai lus partout, sauf que le premier épisode est excellent, contrairement à tous ceux qui m'ont dit le premier épisode c'est horrible, on se demande où on est, je l'ai trouvé super bien, j'ai fait que la saison 1, le reste de la saison 1, du truc, il y avait des gros coups de mou quand même. Et comme dirait Emily, sur 10 épisodes, c'est dommage d'avoir autant de coups de mou. J'ai adoré les 2 derniers épisodes. Je trouve Jason Bateman pas toujours dingue. Laura Linney est exceptionnelle. Je comprends pas qu'elle ne soit pas en gros plan sur les vignettes. C'est l'énorme star de cette série pour moi. Alors il paraît que les saisons 2 et 3, vous l'avez dit, sont mieux, donc évidemment je vais continuer et voilà, mais si on m'avait pas dit ça, objectivement, au milieu de saison 1, j'arrêtais. J'ai trouvé que c'était un sous Breaking Bad avec beaucoup moins d'enjeux, moins intelligent, une montée en puissance. Il y a un épisode que je n'ai pas bien compris, peut-être que j'étais fatigué, hein, mais comment ça s'appelle, pas le flash forward, mais le
flashback.
En arrière, le flashback, merci, le flashback. Objectivement, il y a des moments, j'ai pas tout compris. Hein. Ils font un flashback en mélangeant plusieurs époques ou.
Ouais, tout est monté de façon. C'est pas chronologique, mais ça nous explique comment ils en sont arrivés là. C'est quand même dément.
Non, il est intéressant sur le fond et on comprend un truc important par rapport à la femme justement. Donc il est super important, mais la façon dont il est monté, c'est un peu chelou. Bref, je suis un peu circonspect. Donc je vois tout le monde effectivement. Je suis d'accord avec Emily. Se plonger dans Ozark en expliquant qu'il faut. C'est la série du moment. Vous me l'avez beaucoup dit aussi. Moi, j'attends de voir saison 2 et 3. Ok, mais et puis là, je vais me faire insulter parce que tout le monde aime tellement que je vais prendre des commentaires violents. Mais c'est pas grave.
Mais on aime t'insulter.
Ouais. Deux mots sur mon coup de cœur, qui est une série de Prime Video qui s'appelle.
Moi, on s'en fout, par contre.
Ah, pardon, Emily.
Non, mais ça, je peux pas le dire, il n'y a pas de...
la vérité éclate au grand jour, Emily, on s'en fout.
Alors que, en plus, je vais parler d'une série que tu as adorée.
Ouais, c'est parce qu'on va en parler deux fois. Donc, allez, je te laisse tout le temps de parole.
On peut en parler après, si tu veux, je défendrai mes arguments, parce que c'est mon goût. Voilà, on fait ça.
C'est quoi, je te mets en deux mots ma série coup de cœur, on fait la tienne, et on va tout de suite passer ensuite au coup de cœur, parce qu'il y aura un petit, voilà, carte blanche, parce qu'il y a un petit relais. J'y vais donc. Sur ma série coup de cœur, ça s'appelle Upload, c'est sur Prime Video, c'est entre Black Mirror pour la dystopie qu'on voit sur une technologie dont on sent qu'elle pourrait arriver demain matin, et The Good Place pour le côté feel good un peu twisté. C'est super agréable, c'est des épisodes courts de 30 minutes, une dizaine d'épisodes, donc ça se consomme facilement. C'est avec Robbie Amell, sur lequel on misait rien du tout. C'est le cousin de Stephen Amell, que Emile et moi connaissons bien. Le mangeur de pizza, et qui avait quand même un potentiel de jeu proche de zéro, hein, partout où on l'a vu, et qui là est vraiment excellent dans un registre plutôt comique. Il est vraiment très bon. Franchement, c'est feel good agréable, et il n'y avait pas tant que ça de séries feel good à consommer pendant ce confinement. Donc celle-là m'a fait beaucoup de bien. Donc je la conseille à tout le monde. Est-ce que je suis le seul à l'avoir vue?
Oui, je l'ai mise dans ma to-do list. C'est pour ce week-end, parce qu'en fait, tu m'as donné super envie de la regarder. Moi, j'adore The Good Place, déjà. Voilà, j'ai trouvé très sympa cette série. Je me suis demandé ce que c'était que ce truc. Et en fait, je les trouve tous très bien. J'aime bien le format un peu court aussi. Et je suis un peu comme toi, là, en ce moment, j'ai envie de trucs bien. J'ai envie de trucs qui me font rire un peu, qui font du bien. Et donc, du coup, je me la fais ce week-end. Donc, je t'en parlerai lundi.
Cool. ça sera entre nous. Mais ok.
Voilà. Désolée.
Allez, Emily, c'est à toi. C'est ton moment.
Ah ouais, alors moi c'est vraiment la série qui m'a fait un bien monstrueux, c'est Hollywood, c'est sur Netflix, alors à mon avis, a priori, vous avez tous entendu parler de cette série, c'est la nouvelle série de Ryan Murphy qui est entre autres le créateur de trucs comme comme Glee ou American Horror Story, donc vraiment il a des univers assez opposés. L'idée c'est, il a imaginé ce que serait Hollywood si les débuts de Hollywood, si les gens avaient été un petit peu plus ouverts, notamment sur l'homosexualité ou voilà sur la question des races et tout ça. Et en fait, il suit le parcours de quelques acteurs. Alors moi, ce que j'ai aimé dans cette série, au-delà du fait qu'elle fait du bien, c'est que il a mis des trucs qui sont réels. Il a pris des vrais acteurs, des vrais gens. Il a mêlé ça avec des personnages de fiction. Il y a une dizaine d'épisodes, je crois. Déjà, c'est magnifique. Vraiment, c'est sublime. Je trouve que voilà, en termes de réel, en termes d'image, je trouve ça très beau. Les acteurs jouent très bien. Moi, j'aime bien le côté où Ryan Murphy à chaque fois fait appel aux mêmes acteurs parce qu'il y a un petit côté doudou. Et du coup, dès le premier épisode, bah, je les aimais déjà tous, ce qui est quand même très très fort pour une nouvelle série. Il y a un côté un peu naïf de temps en temps, voilà, il nous faut un happy end. Mais moi, ça m'a fait du bien. En ce moment, j'avais vraiment besoin de ça. Alors, ça faisait très longtemps qu'avec Noémie, ma chérie, on s'était pas posé devant une série pour tout bouffer d'un coup, parce qu'on essaye un peu de se les garder, mais là on n'arrivait pas à s'arrêter. Je crois qu'on s'est fait 5 ou 6 épisodes le premier jour et on a enchaîné les autres le lendemain matin. Donc en moins de 24 heures, on avait tout regardé. Si vous avez envie d'avoir quelque chose de beau qui fait du bien, d'apprendre des choses aussi et d'avoir envie après de vous documenter sur Hollywood, regardez Hollywood et puis après coup achetez les livres Hollywood Babylon que m'a offert Virginie, parce que vous aurez la vraie histoire en parallèle. Ils sont vraiment extraordinaires, donc voilà, c'est vraiment mon coup de cœur. Et je sais qu'il y en a certains qui sont d'accord avec moi, dont mon petit Eric, d'autres qui ne le sont pas, et on va se battre parce que cette série, je vais la défendre bec et ongles.
Alors on va se battre en deux parties, parce que dans la carte blanche tout à l'heure, on va se reparler de Hollywood dans le camp de ceux qui ont moins aimé, je crois. Mais effectivement, alors est-ce que tout le monde l'a vu déjà, pour y aller dans l'ordre? Virginie, oui. Tu l'as vu ou pas?
Moi, j'ai pas dépassé un épisode et demi.
D'accord. Donc, ok. Donc, Émilie, on est deux. Donc, on y va.
On sera nous.
On sera nous, mais on sera fort. On s'en fout. Les minorités, c'est nous.
Voilà, c'est ça. Nous,
on te reconnaît bien là à te mettre dans la majorité, tu vois. Franchement, ça ne m'étonne pas. effectivement, c'est la deuxième série feel good de ce confinement. Ça m'a fait tellement de bien. Alors oui, c'est glitter, c'est plein de moments comme ça, crème chantilly, ou y en a plus qu'on en veut, mais c'est exactement moi ce qu'il me fallait, qu'on m'en serve comme ça du happy end, qui se passe exactement ce que j'aimerais qu'il se passe dans un monde de rêve. Je voulais ça, entièrement d'accord sur le côté doudou des acteurs qui font que en 10 secondes on est dedans et hop, on n'a pas ce temps de mise en place qui parfois est lourdingue. Quand même, on peut se parler de l'ancienne génération ah oui. Des acteurs qu'on aime, enfin on aime les vieux, quoi.
Holland Taylor.
En regardant, je me suis dit, je suis sûr que les gens qui vont aimer cette série, ils vont aimer plus les vieux, l'ancienne génération, que la nouvelle. Et c'est exactement ce qui se passe, et ça fait tellement de bien, parce que évidemment les jeunes, ils sont pimpants, ils sont sublimes, tout ça, c'est super, mais il y en a pas toujours le charisme qu'il faut, alors que franchement, les interprétations de tout ce qu'il y a au-dessus de 50 ans, c'est un plaisir absolu, c'est du bonheur.
Moi, gros coup de cœur pour Holland Taylor, qui accessoirement est la meuf de Sarah Paulson, j'ai découvert ça il y a quelques années.
Mais si, je savais que ça allait
surprendre l'un d'entre vous. Ouais, c'est sa meuf. Et en fait, c'est une nana avec qui j'ai envie d'aller boire des verres de vin et discuter jusqu'à la fin des temps. Je trouve qu'elle est exceptionnelle, cette actrice. Elle a un charisme de ouf. Et effectivement, t'as raison, c'est l'ancienne génération qui prend un peu le pas et que t'aimes encore plus que les jeunes. Et ça fait un putain de bien, ouais.
Et tu sais qu'elle dit la même chose que toi. Elle a très envie de prendre, de boire du vin avec toi, je crois. Elle a dit, c'est la rencontre quand vous voulez.
Ah, on n'entend plus Émilie.
On a perdu Émilie.
C'est dommage, mais ça devait être
dommage.
Non, j'ai dit, tu perds rien pour attendre quand on sera en vrai. Excusez-moi, j'avais muté mon micro, j'ai essayé d'être une bonne élève. Et en fait, on m'entendait plus.
Bon, puisque c'est comme ça, je vais bousculer le conducteur, je m'en fous. Il y a Anto en régie qui va être en panique. On s'en tape, on va passer directement aux cartes blanches dans les chroniques pour pouvoir continuer à parler d'Hollywood.
Oh my God, les chroniques.
On va avancer sur les coups de gueule, les plaisirs coupables, les étonnements en tout genre, les cartes blanches qui permettent à chacun, alors en une minute, pas trop plus, sinon il y aura moins de temps pour les audiences, de raconter une série ou un fait série de ce dernier mois. Et je crois que Céline voulait nous parler de Hollywood.
Hollywood, oh là là, j'ai adoré, vraiment, c'était génial, cette avalanche d'arc-en-ciel à en dégueuler, c'était, ça m'a fait un bien fou pendant ce confinement de voir toute cette histoire réécrite, c'était waouh. Non, j'ai pas supporté, mais attention, vu que je suis un peu quand même maso, j'ai regardé intégralement la série parce que je voulais quand même savoir ce qui allait se passer, je suis vraiment committed.
Ah, c'est du professionnel.
Mais voilà, bravo, c'est ça, c'est de l'engagement. Alors, pourquoi non? Bah, parce qu'en fait, je venais de voir LA Confidential, tu vois, dans le vrai Hollywood de l'âge d'or, il y a un truc, et alors on retrouve exactement un personnage, Lana Taylor, tu vois, ou comment il s'appelle, Rock Hudson, il l'appelle Lena Taylor, tu vois, y a, on retrouve tout ça, mais j'ai trouvé que du coup c'était tellement loin de la vérité un peu dark, tu vois, c'était trop... trop guimauve, trop mignon. Donc, au bout d'un moment, ça m'a gonflé. Et c'est dommage. Je pense qu'il y avait moyen d'en faire quelque chose. Ouais, ça m'a gonflé. Voilà, trop de bons sentiments, tue le bon sentiment. Et je m'arrête là. Pas grand-chose à ajouter. Oui, c'est beau. Oui, il joue bien. Oui, vive Dylan McDermott et sa moustache, mais une élégance folle, incroyable.
Dans une station-service, il nous a fait quelque chose à Selim, hein, de le retrouver dans une station-service, puisque nous l'avons rencontré un jour en vrai dans une station-service à LA.
Voilà. Donc, mais je m'arrête là. J'ai pas, tu vois, j'ai pas envie d'être méchant sur cette série. C'est pas pour moi. Voilà, je voulais des trucs
on
de bourrin. C'était très bien. Voilà.
Ok, Fabrice. Sur Hollywood toujours, t'avais deux mois.
Hollywood, je suis Team Selim un peu. En fait, j'ai été assez déçu parce que je trouve que j'adore cette période de l'histoire du cinéma. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites dessus. Là, on démarre sur un truc, on ne sait pas trop si on est dans quelque chose avec des personnages réels ou pas. Il faut chercher lesquels sont réels, lesquels ne sont pas. Et surtout, il y a cette espèce de truc qui veut nous dire, ah, regardez comme c'était dark dans les, en coulisses, avec une image toute mignonne, toute léchée, des belles lumières. Même la chambre du motel, elle est sublime, on a envie d'y habiter. Je trouve qu'il y a un truc qui se veut trop mignon. Et ce que je comprends pas, et c'est pour ça que je regardais cette série, c'est que j'ai été super déçu parce que Ryan Murphy, il avait fait aussi Feud, qui racontait la rivalité entre Bette Davis et
ça, c'est extraordinaire.
C'est un autre style.
Et là, oui, mais là, on était vraiment dans le côté vraiment sale des studios, les rivalités, les saloperies qui étaient faites en studio, et notamment entre les actrices, mais pas seulement entre les actrices. On voyait Jack Warner qui faisait les pires saloperies pour pouvoir garder ses actrices, etc.
C'était bénéfique dans Feud, c'est ça, de montrer que les femmes étaient, elles n'avaient pas d'autre choix pour survivre que de s'entre-déchirer, quoi.
Ouais, c'est ça.
Le coup de gueule, Canal Plus ne l'a plus en catalogue.
Je suis d'accord.
C'est vraiment, il faut remettre cette série en catalogue. Il y a plein de dopes.
Et pardon, mais vous regardez la série et puis franchement, vous enchaînez avec Whatever Happens to Baby Jane, pour ceux qui ne l'ont pas vu, qui est le film dont il est question dans cette série, qui réunit ces deux actrices qui se haïssent, et elles sont, putain, mais t'as un niveau de jeu sur Feud avec qui joue Joan Crawford et Bette Davis, t'as un niveau de jeu, mais comme t'es rarement atteint, quoi. C'est-à-dire que on est face à des actrices qui, dans la façon dont elles boivent leur verre, arrivent à te foutre la chair de poule et les larmes aux yeux, quoi. On est sur du grand art.
Et justement, c'est ce que j'allais dire aussi, c'est que quand même, on avait du Susan Sarandon et du Jessica Lange. Je suis désolé, on est quand même le niveau au-dessus de ce que j'ai vu dans Hollywood. Les petits jeunes dans Hollywood, enfin, je suis désolé, ils jouent, mais super mal. Alors, au début, je me suis dit, ah, ça doit être fait exprès pour nous montrer qu'ils sont un peu lisses, qu'ils ressemblent à rien. Ah, bah oui, c'est ça. Non, en fait, ils ressemblent à rien jusqu'au bout. Effectivement, je suis d'accord, c'est les plus anciens qui ont le plus de
qui sont exceptionnels. Là, je peux pas vous laisser dire que le niveau de jeu l'ancienne génération est en dessous. Là, c'est
mal
fait la carrière des deux personnes.
Ils sont excellents. Les anciens, ils sont excellents. Et après, effectivement, moi, cette espèce de pluie d'arc-en-ciel de guimauve, le dernier épisode, mais j'étais mal à l'aise dans toutes ces, je me suis dit, mais c'est pas vrai, c'est gênant, en fait. C'est vraiment gênant à regarder. Ça m'a dégoûté. Le dernier, je me suis dit, tiens, c'est un peu, tu sais, comme quand tu prends du Saint-Honoré, que tu te dis, tiens, je vais encore goûter un peu la chantilly parce qu'elle n'est pas mauvaise. Puis tu sais pas t'arrêter, mais en fait, il faut t'arrêter parce qu'après, t'as mal au ventre.
Ok, bon.
J'ai très envie de les frapper, mais je vais me retenir.
Je pense que ça couvre bien les deux points de vue qu'on a vu passer sur cette série avec des gens qui adorent parce qu'ils rentrent, mais je pense qu'il y a ceux qui ont l'esprit ouvert et qui rentrent dans.
Et puis il y a les aigris de l'autre.
Bah, il y a ceux qui ont mal vécu le confinement, tu vois, où ils étaient dans leur douleur, dans leur malheur, ils voulaient pas en sortir. Moi, je comprends, je peux pas juger ça.
Moi, je comprends pas.
on est sur des équipes. Bon, ok. En tout cas, ouais, l'avantage, c'est que pour une fois, je pense qu'on couvre assez bien le spectre de ce que les gens ont pensé d'une série qui, ne laisse pas indifférent. C'est déjà quelque chose.
C'est vrai.
On aime ou on déteste, de toute évidence. Et puis, il faut rentrer un peu, ouais, il faut rentrer un peu dans ce principe. Souvent, ceux qui n'ont pas aimé Once Upon a Time in Hollywood, c'est un peu pour les mêmes raisons, c'est pas de la guimauve, mais
voilà. Alors, pour le coup, moi, j'ai détesté Once Upon a Time. J'ai détesté Once Upon a Time, mais j'ai adoré Hollywood. Once Upon a Time, je me suis vraiment fait chier comme un rat mort, mais vraiment. Je me suis dit, le gars, en fait, il se fait son kiff, donc il s'en fout de toi, mais Hollywood, j'ai adoré.
Allez, on continue sur les cartes blanches, du coup, avec Virginie.
Ah, moi, elle est sexy, ma carte blanche, ça va vous plaire. Moi, je suis tombée folle amoureuse d'une série de documentaires sur Arte qui s'appelle Le Temps des Ouvriers. Alors moi, j'ai eu un confinement vénère. Je suis vénère, j'ai hâte de sortir pour aller tout casser, que les choses soient très claires. Donc, Le Temps des Ouvriers, c'est très bien, parce que tout le monde est là, le monde d'après, le monde d'après. Ben, réfléchissons au monde d'après, mais pour bien réfléchir au monde d'après, faut bien savoir quel monde on quitte. Le Temps des Ouvriers, donc c'est 3 siècles du 17e siècle à nos jours, 3 siècles d'histoire ouvrière. Donc ça couvre évidemment le tout début des usines jusque au quasiment 21e siècle, en passant par les Zola et tout le 19e qui est Victor Hugo, qui nous ont quand même ce monde ouvrier nous a offert de la littérature et des du sublime comme peu de milieux ont offert ça. Et c'est fou. Parce qu'en fait, je ne le savais pas, mais la première usine a ouvert au XVIIe siècle. Ils faisaient des trucs pour les esclaves et compagnie, en Angleterre, quoi. Et en fait, dès le démarrage de ce système, c'est-à-dire qu'on critique le communisme, etc., en disant l'expropriation du prolétariat, mais en gros, les mecs, c'est les marchands, ils en ont eu marre de devoir léguer aux tisserands le coton. Donc, ils ont viré les tisserands, c'est-à-dire qu'ils ont construit, ils ont acheté les machines et ils ont exproprié, c'est-à-dire que dans la nuit, ils envoyaient des hommes de main virer les gens de leur champ, de leur ferme pour les contraindre à aller à l'usine. Et voilà comment on arrive dans ce putain de système, 3 siècles plus tard, où on a une pandémie sur la gueule et où il faut en sortir avec une crise en sachant pas ce qu'on va reconstruire. Et ben donc, pour bien penser le monde de demain, commencez par bien connaître le monde que vous voulez quitter et ça démarre par cette série de documentaires magnifiquement faits sur Arte qui s'appelle Le Temps des Ouvriers. J'ai été bien là, non ?
Ouais, très bien. Parfait. C'est dispo en replay sur Arte ?
Dispo en replay sur Arte, ouais.
Nickel.
C'était vraiment très bien, très très bien.
Écoute, on va aller le voir, même si on est un peu déconfiné, on va y aller quand même, on s'en fout. Allez, Fabrice. Fabrice, tu sais,
j'essaie de le faire, tu pas ? Oui, je vous parle des séries de prime time. Alors, j'essaie de le faire en mode statut pour pas frotter. Il faut que j'arrête de me frotter.
après le confinement. Ça vaut pour la vie en général. Hein, faut que
à chaque fois que tu l'as fait, elle me fait rire. Hein. Ça, tu peux regarder, elle marche à chaque fois.
Ça, c'est la période de confinement, ça a été très dur. Et de quoi je voulais vous parler ? Avec toutes ces séries qu'on a découvertes un peu en prime time sur des chaînes connues, comme des chaînes comme TF1, comme si on n'a pas été obligé d'aller sur des plateformes. Je ne vous reparlerai pas de The Residence, qui passe sur TF1, qui marche d'ailleurs très bien.
On en a que j'ai regardé grâce à toi, j'adore. Voilà. Là, pour le coup, je me suis fait les 2 saisons, je n'ai trouvé que 2,
ouais.
D'une traite, c'est génial.
Bon, et donc ça, c'est effectivement, je suis d'accord avec toi, je trouve que c'est très bien et que c'est du bon produit mainstream, mais c'est vraiment bien foutu. Et puis, je voulais faire un petit coup de klaxon, comme disait une rédactrice en chef avec qui j'ai bossé, un petit coup de klaxon sur Why Women Kill sur M6, la nouvelle série de Marc Chéry. Pourquoi j'en parle ? Parce que d'abord, je me suis dit, bon, une série, c'est un peu le problème qu'on a aujourd'hui avec les séries, c'est qu'on se dit, bon, bah si c'est sur M6, bof, quoi. C'est peut-être pas la peine de regarder, j'ai pas envie de regarder NCIS après tout. Et je me suis quand même lancé dans Why Women Kill en me disant quand même Marc Chéry, il a fait Desperate Housewives, il y a sûrement quelque chose à en tirer. Et ben je trouve qu'il s'en tire pas trop mal quand même avec cette série qui met donc en parallèle trois personnages féminins de 3 époques différentes. C'est quand même une gageure dans une série grand public, une dans les années 60, une dans les années 80 et puis une troisième aujourd'hui à notre époque. 3 actrices formidables, hein. Je reviens pas sur quand même Lucy Liu, je trouve qui crève l'écran. J'aime beaucoup aussi Jennifer Goodwin que je connaissais moins bien parce que j'ai jamais trop été fan de Once Upon a Time.
Mais...
Exactement. Il met en parallèle ces trois personnages féminins et Virginie, c'est une série pour toi, c'est une série sur les femmes, doivent prendre le pouvoir et bon, visiblement elles vont finir par tuer quelqu'un. Marc Chéry le dit. On ne sait pas qui va tuer qui, c'est pas forcément nos héroïnes, on va voir comment ça se passe exactement, mais en tout cas l'idée c'est que chacune a une histoire amoureuse un peu compliquée qui va mal se terminer visiblement. Et en tout cas c'est très bien foutu parce que chaque épisode est très bien construit avec un point d'ancrage dès le départ de l'épisode qui va être développé pendant tout l'épisode. Effectivement, quand on regarde, on se dit quand même c'est très Desperate, même la musique c'est Desperate Housewives, même les sons, les images, les couleurs, il y en a partout, il y a du fluo partout dans les années 80, ça crache de partout. Et pourtant, c'est super bien. C'est, ils appellent ça. Alors, j'ai vu ça, drama comédie. Non, comment
Dramédie.
Dramédie. Voilà. Parce que au lieu de dire comédie dramatique, comme on disait jusqu'ici, bah oui, c'est une dramédie.
Et donc maintenant. D'abord un drame.
Oui, mais en l'occurrence.
Un drame qui va t'amener de la comédie, ça n'a rien à voir avec la comédie dramatique.
D'accord. Bah alors, justement.
C'est dans l'autre sens. La narration se fait dans l'autre sens.
Bon, d'accord. T'as peut-être raison. Alors, du coup, on a bien fait de créer le terme de dramédie. En tout cas, ce que j'aime bien dans cette dramédie, c'est qu'effectivement, il arrive quand même à injecter dans ses histoires, des sujets, qui sont des sujets forts ou des sujets graves. Il y a un des personnages dont on apprend qu'il est tombé malade, qu'il est atteint du sida, etc. Et c'est marrant de nous glisser ça vraiment comme des petits éléments qui font partie de l'histoire sans que ça soit le thème principal, mais en les traitant de façon, plutôt, sobre et plutôt bien.
J'ai découvert hier que ce personnage dont on apprend qu'il était malade, j'ai compris hier que c'était Jack Davenport, que j'ai tellement aimé dans Smash, où c'était, il avait cette espèce d'accent incroyable de stature d'homme à femme. Là, il est dans un rôle tellement différent que je l'ai reconnu. Quoi. C'est pas tellement qu'il a changé physiquement.
Mais moi aussi, j'ai pas reconnu.
Il est à des années-lumière de ce qu'il a fait avant. Mais en fait, ça nous rappelle que c'est un putain de bon acteur. En fait, j'avais pas trop réalisé jusqu'à maintenant parce que je croyais qu'il jouait lui-même tout le temps. Why Woman Kill, je vois que Emily n'est pas sur le coup.
Non, alors j'ai vraiment pas du tout. Bah ouais, mais en fait, j'ai pas accroché. Je l'ai regardé en me disant, comme toi, Fabrice, bon bah c'est Marc Cherry, j'ai tellement aimé Desperate, j'ai tellement aimé ce qu'il a fait. Et en fait, justement, bah c'est Desperate. J'ai pas l'impression d'avoir découvert quelque chose de nouveau. Et puis, enfin, ce mec-là, mine de, j'ai toujours dans le coin de ma tête le fait que c'était un gros misogyne et qu'il a un petit peu maltraité ses actrices sur les plateaux de Desperate avec. Oui, mais enfin ça n'empêche que voilà et ouais j'adore Lucy Liu en plus, donc je me suis dit je vais vraiment plonger dedans et j'ai pas eu l'impression de découvrir un truc révolutionnaire. Donc du coup j'ai regardé les 3 premiers épisodes et après j'ai complètement zappé. Je me suis dit que j'avais autre chose à faire, un autre puzzle ou quoi que ce soit, mais j'ai pas accroché du tout.
Il y a que moi qui suis gêné par la voix nasillarde de Lucy Liu que j'avais découvert en VF dans Ally McBeal, comme tout le monde, je crois, et qui en VO a une voix, mais c'est horrible, non?
Alors, j'ai eu ce problème-là aussi, c'est que M6, sur notre télé, en fait, tu peux pas choisir la VO, donc du coup, j'ai dû me le taper en VF, et je pense que du coup, ça a aussi fait que j'avais pas envie de continuer.
Parce que
il y a que New York Unité Spéciale que je regarde en VF. Bah,
moi, pendant le confinement, ça a été un peu ma série, comment vous appelez, votre série Doudou.
Doudou.
Voilà. Ça la voyez, comme quoi je suis humain, moi aussi, je suis comme vous, hein. J'ai besoin de ça.
Oh, c'est beau.
Voilà. On est sur une petite dépression. Tout va bien se passer, on est là. Ok, très bien. Donc, en gros, tu nous as dit, les séries de prime time, ça fonctionne et c'est pas parce que c'est M6 qu'il faut pas regarder Why Women Kill. Je comprends. Les séries de prime time ont rappelé aussi que, oui, la fiction française cartonne, mais la fiction US qu'on avait enterrée assez vite sur les grandes chaînes, finalement, c'est près de 5 millions de téléspectateurs avec The Resident ou Why Women Kill ou d'autres. Donc, ça revient en force, en fait, avec ce confinement. Émilie?
Une fois n'est pas coutume, je vais gueuler. Je vais gueuler après quelqu'un qui normalement j'aurais pas dû gueuler après lui, mais je vais gueuler quand même. Cette personne, c'est Éric Rochant. Éric Rochant, c'est qui? C'est le créateur du Bureau des légendes. Alors moi, je ne regarde pas le Bureau des légendes. Je fais partie de je suis Astérix. Je ne regarde pas le Bureau des légendes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que donc le final a été diffusé là il y a pas longtemps, a été mis à dispo et diffusé sur Canal+. Et le final a donc été fait par Audiard. Et tout le monde, mais alors vraiment c'est unanime, tout le monde a détesté. Mais tout le monde, et c'est vraiment le final de la série. Et en fait, donc moi je ne regarde pas, donc je me dis bon bah je m'en fous que ça marche pas, mais je tombe sur le tweet d'Éric Rochant que tout le monde a relayé, où il dit grosso modo entre les lignes, bon bah voilà, moi j'ai voulu le donner à Audiard, il a fait du Audiard, c'est un épilogue, cet épilogue c'est un geste artistique, et le temps jouera pour nous. Donc grosso modo, ça veut dire, écoutez, moi j'ai voulu me faire un kiff, j'ai voulu bosser avec Audiard, je lui ai filé la fin de ma série, vous n'avez pas aimé, je m'en fous complètement. Et moi j'aime pas ce côté où le mec se dit, enfin, tu fais pas une série pour te faire kiffer, tu fais une série pour faire kiffer les gens. Donc si les gens te disent c'est pas bon, au moins aie la décence de leur dire, bon bah, je suis désolé, écoutez, j'ai tenté un truc, ça n'a pas marché, bon, voilà, je garde le truc en me disant c'est génial, moi j'ai adoré, mais je m'excuse si vous n'avez pas aimé. Et j'aime pas le côté de bon bah aujourd'hui vous avez tort, mais vous verrez dans quelques années vous me direz que c'est génial.
Non. Voilà, c'est pas possible, ça c'est la tyrannie du réseau social. Melody Nelson, quand elle l'a sortie, c'est 3000 exemplaires. Tous les actes artistiques forts qui ont bouleversé le 20e siècle, personne n'a acheté. Laurie, personne n'a acheté. Les gens comprennent pas. Showgirl, ce film extraordinaire de Verhoeven, détruit par la critique, il a fallu 20 ans pour que les mecs disent, alors que c'était évident que c'était un putain de chef-d'œuvre qui comptait toute l'époque dans laquelle on allait vivre, tous ces abrutis sont passés à côté, disant c'est de la merde, ça n'a rien à voir.
Moi, j'ai beaucoup aimé,
aujourd'hui, 20 ans plus tard.
Ouais, un peu guilty pleasure quand même, Showgirl,
Showgirl, c'est un très grand film. Ouais. Tu rigoles ou quoi? C'est un très, très grand film. C'est le film.
Autre débat, autre émission, mais on pourrait tenir une heure.
Je comprends ça. Moi, alors, j'ai pas vu la fin du Bureau des légendes, etc. Mais Audiard, c'est quand même un mec cérébré, donc il a dû poser un truc. Game of Thrones, hein, tout le monde a haï la fin. Moi, j'ai trouvé la fin qui n'avait pas l'envergure de toute la série, mais en même temps, quand ils réfléchissent, ça pouvait pas se terminer autrement. Et c'est une toute petite fin, quoi. C'est-à-dire, tu te dis tout ça pour ça, les mecs, sérieusement, 7 ans, 7 saisons pour finalement vous retrouver à la même table du conseil avec 2 mecs en moins. Franchement, mais en même temps, la vie a tendance à prouver que, c'est la même chose qui recommence tout le temps. Après, j'ai pas vu la fin du Bureau des légendes. Donc là, je le défends. Et c'est de la grosse merde et je vais beaucoup regretter cette intervention. De l'importance de savoir de quoi on parle quand on en parle.
Mais non, moi c'était plus le côté un peu désobligeant vis-à-vis des gens qui ont suivi pendant 5 ans cette série. Pas le fait qu'il ait voulu se faire un kiff, c'est juste le côté à un moment donné tu peux pas dire aux gens, tu peux pas leur cracher à la gueule en leur disant vous n'avez rien compris, vous êtes des merdes. Attends,
mais c'est pas ça qui est
non mais attends, c'est violent aussi de se prendre une salve de merde. Tu vois, on le sait, ils sont quand même. Alors après, c'est pas pour ça qu'il faut s'empêcher de penser. Mais je veux dire, quand les mecs ils viennent de sortir un truc, personne se dit chouette, j'ai raté ma série, chouette, j'ai raté ma fin. Enfin, tu vois, donc quand tu te prends un ramassis de vomi sur la gueule derrière, généralement, ça ne t'aide pas à être dans la conciliation et dire aux gens je vous aime, je vous comprends.
Et puis il va pas s'excuser. Justement, c'est ça le propos, c'est quand même il peut pas s'excuser. Parce que tu dis à un moment donné, ah oui, il pourrait s'excuser au moins, mais s'excuser de quoi? Il a fait ce que lui voulait faire. Je ne suis pas sûr qu'il voulait se faire kiffer que lui-même, mais il a dû penser quand même qu'il y avait quelqu'un de l'autre côté de l'écran qui allait regarder et qui allait.
Au moins, qui fait aussi.
Il ne peut pas s'excuser d'avoir commis de l'art, un acte artistique.
Fort.
Ok, bon, le débat est ouvert en tout cas. Est-ce qu'il faut ou pas regretter un truc que personne n'aime? Je suis d'accord avec Emily, personne n'a aimé, c'est assez rare. Je ne regarde pas non plus
les
gens. Et alors, j'ai rarement vu, même Game of Thrones, il y a quand même des gens, dont je fais partie d'ailleurs, qui défendaient la dernière saison en lui trouvant des circonstances atténuantes. Là, c'est... Donc ça doit être compliqué quand même, quand tu as créé quelque chose et de voir à ce point, c'est pas quelques haters sur les réseaux sociaux. Je pense que le point des réseaux sociaux, Virginie, est pas opérant là dans ce cas-là. C'est pas les réseaux sociaux, c'est les gens, l'ensemble des spectateurs d'une série détestent la fin.
Comment tu connais leur avis? Parce qu'ils l'ont témoigné sur les réseaux sociaux.
Non, tu as plein de moyens de connaître les gens sur ce qu'ils regardent à la télé, je te rassure, ailleurs que sur les réseaux sociaux, heureusement.
Après, là où je te rejoins, Émilie, c'est que c'est vrai que dans son message, il y avait une pointe de condescendance. Et c'est vrai.
Mais c'est Rochon.
Je pense que c'est Rochon. Donc c'est vrai que cette condescendance, c'est un peu agaçant quand tu te dis, bon, ouais, écoute, mon gars, c'est bon. Je lui demande pas de dire que c'est mauvais, mais effectivement, le truc non. de, il n'avait rien compris, les gars.
Quand même, dans l'équipe, le grand fan, c'est Selim.
Alors,
tu ne dis rien.
Et Selim, tu ne dis rien. Donc, est-ce que tu l'as regardé d'abord et qu'est-ce que tu en penses?
Tu dois trancher.
Non, je vais rien trancher du tout. Tu sais, pour moi, le point culminant a été atteint à la saison 2. La 3 était OK aussi. Ce cycle russe, saison 4 et 5, pour moi, il était déjà un peu plus décevant. Mais là, si tu veux, on est rentré dans une saison 5 où tu as du Louis Garrel qui débarque et qui s'en va sans qu'on lui dise au revoir. Il y a eu un gros point, en fait, de tristesse pour tout le monde. On a des personnages à qui on dit pas au revoir. Ils sont là, mais qu'est-ce qu'ils deviennent? On n'en sait rien. Il y a de nouvelles intrigues avec Artus qui arrivent comme ça. Ça vient, ça repart, on sait pas du tout ce que ça fout. La vraie intrigue, si tu veux, elle est terminée et elle se termine très très bien. C'est ce qu'il fallait, tu vois, sur l'intrigue principale, le héros principal, ce qui lui arrive, c'est génial. Que les gens n'aient pas aimé, écoute, je peux comprendre. Moi, ça m'a satisfait comme fin. Voilà, j'étais content sur le héros. Les intrigues périphériques m'ont gavé. Donc, je peux comprendre l'énervement en ligne, mais je comprends aussi que Rochon ait filé la fin à Audia. Je suis pas déçu, tu vois. Je suis content que ça s'arrête là. On a terminé.
On a trouvé le mec.
Est-ce qu'on sait pourquoi ça, c'est une démarche quand même étonnante de filer une fin. Il était au bout de sa life, Rochon.
Ouais, visiblement. Tu sais, en fait, il y en a certains. Parfois, vous avez vu hein, sur The Eddy, ils sont plein de réalisateurs à faire. Chazelle fait les deux premiers. Là, pour le coup, bon, Rochon avait fait tout. Il file les deux derniers à Audiard. Il était fatigué, il en avait marre.
C'est ça, il s'en sortait plus. Quoi.
Allez, on va passer à la deuxième rubrique de ces chroniques, c'est les audiences. Là, je vais les passer assez vite pour qu'on ait un peu de temps sur le débat. Donc, vous pouvez tous vous mettre sur mute. Je les défile. On est sur un top 10 des audiences qui sont toujours basées, je le rappelle, sur la consommation sur les plateformes de streaming des 1 300 000 membres de Beta Série. Donc, c'est un carottage représentatif d'une consommation. En 10e position, on l'a dit, ça a été l'une des séries de ce confinement, c'est Ozark sur Netflix, qui donc rentre dans le top 10 pour la première fois, je crois, depuis qu'on fait les audiences. En 9e position, Good Girls. Alors, j'ai pas les explications. Good Girls, ça a été diffusé sur M6 après Why Women Kill sur la saison 1, ça n'a pas marché. Les saisons suivantes sont disponibles sur Netflix. Donc, ça en fait peut-être un succès d'audience sur Netflix qui est un échec d'audience sur M6, ce qui est un indicateur intéressant, je trouve.
On aime les consommateurs, la cohérence du consommateur, c'est magnifique.
Ouais, mais parce que aussi l'échelle de grandeur n'est pas la même, je pense. Et effectivement, ce qui fait un succès sur M6 n'en ferait pas un sur TF1, mais en fait un sur Netflix. Donc ça donne des indications sur la façon de regarder également les mesures d'audience. En 8e position, Hollywood, on en a parlé beaucoup. En 7e position, Into the Night, sur Netflix également. Alors c'est le fameux thriller de science-fiction belge que j'ai regardé pendant quelques minutes pour me faire un avis.
J'arrivais pas à savoir ce que je regardais vraiment moi.
C'est ça.
Donc j'ai lâché.
On est d'accord. La Casa de Papel en 6e position sur Netflix. En 5e position, Never Have I Ever, c'est mes premières fois en français sur Netflix. La comédie ado feel good, donc autant dire que moi, tout ce qui est ado, hein, j'ai arrêté il y a 2 mois, donc je ne verrai jamais cette série. Mais,
c'est très bien, ça se mange tranquillement. Moi, j'ai tout regardé d'un coup, c'est très sympa, c'est très léger, ça fait du bien. Bon, regarde Fabrice, du coup.
Dans ton état, franchement, regarde. En 4e position, The Last Dance, c'est sur Netflix. C'est la mini-série doc sur le basket US. Donc, ça cartonne en France.
C'est Michael Jordan.
D'étonnement, mais vous qui êtes beaucoup plus infiltré dans cet univers de la télé que moi, je suis curieux de ce que vous en pensez. C'est quand même une série ESPN, qui est une série Disney, donc. ESPN, c'est une chaîne de Disney. Qui est diffusé sur Netflix. Alors, je comprends rien au contrat, mais alors là, vraiment, ça m'échappe d'autant plus.
Non, il y a des deals un peu bizarres en termes de séries et de docs entre Disney et la France. Parce que, par exemple, tu vois toutes les séries ABC, donc ABC, c'est Disney, que ce soit Brothers and Sisters, que ce soit Grey's Anatomy, Desperate, sont toutes sur Amazon. Et non pas sur Disney+, qui maintenant est accessible en France. Donc, je pense qu'en fait, ils ont un peu dispatché les trucs et qu'ils ont très envie, j'imagine, que Disney+, en France, reste vraiment un truc pour les enfants avec soit des dessins animés soit les coulisses en fait que du contenu qu'un enfant puisse regarder ou qu'un adulte puisse regarder avec un enfant et je pense que c'est pour ça qu'ils ont un peu dispatché les trucs. Après on n'est pas à l'abri qu'ils ramènent tout à terme parce que c'est ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est-à-dire qu'aux États-Unis il y avait certaines séries qui étaient sur Netflix et qui se sont arrêtées en décembre 2019 et à partir de 2020 ont retrouvé leurs diffuseurs et leurs personnes. Pardon, je fais beaucoup de signes, j'aime bien.
Mais pour ceux qui te regardent, du coup, c'est agréable. Killing Eve est en 3e position, c'est sur Canal+. Moi, je suis pas fou de la dernière saison, mais bon, ça va peut-être repartir. J'ai beaucoup aimé les deux premières. En 2e position, et pourtant ça vient de sortir, mais donc ça cartonne là tout de suite dans le classement de cette semaine, c'est Dead to Me, la 2e saison. J'avais adoré la première, j'ai pas encore regardé la 2e. Quelqu'un l'a regardé parmi vous ou a commencé à regarder la 2e saison?
Pas encore, on n'a pas eu le temps.
Mais
j'aime trop cette série.
C'était génial. Et en première position encore Westworld sur OCS, donc qui a sorti, c'est la 3e saison, qui paraît-il est beaucoup mieux que la 2e, qui nous a tous perdus. Donc bon, c'est comme ça. Finalement, ça continue à bien marcher. Voilà pour les audiences de cette semaine, et on va passer tout de suite au débat.
Oh my God, le débat.
Alors c'est pas nouveau, hein, mais dans la lignée de celle dont on a parlé, Why Women Kill ou Miss America, et dans des genres très différents, on remarque que les séries mettent de plus en plus souvent en avant des histoires de femmes. Ces héroïnes, porte-drapeau du girl power, nous emmènent dans leur univers avec une sensibilité forcément particulière. On va donc se demander ensemble ce qui fait le succès des séries mettant en avant les femmes. On est sur une trentaine de séries qui ont été citées quand on en a parlé ensemble. Donc, c'est évidemment des séries avec des femmes, il y en a beaucoup. D'abord, première question, juste pour poser le sujet. Est-ce que, selon vous, il y a des spécificités à ces séries qui mettent en avant des femmes? Est-ce qu'elles ont quelque chose de particulier ou finalement, il se trouve juste que c'est les femmes à la place des hommes? Virginie.
Ça dépend par qui elles sont écrites.
D'accord, donc tu différencies si elles sont écrites par des femmes ou par des hommes.
Ah bah, puis alors, moi, tu me colles devant un écran, tu me laisses 10 minutes devant, je sais si c'est un mec ou une gonzesse qui écrit. Donc, souvent, c'est les hommes qui écrivent et souvent, ça parle d'une femme qu'aucune femme ne connaît. Voilà. Et quand c'est des gonzesses, généralement, je commence à m'y retrouver un peu plus. C'est pas tant, que les hommes ne peuvent pas écrire sur les femmes, pas du tout, mais t'es toujours dans une sorte de projection. Bah, c'est un peu, pardon, mais pour caricaturer, souvent, je trouve que c'est un peu comme quand tu vois deux femmes couchées ensemble filmées par un homme.
Merci, voilà. La vie d'Adèle, c'est de la merde.
Voilà, t'es sur un truc, tu dis oui, c'est très intéressant, c'est bien hétéro.
Moi, j'ai jamais vu deux femmes ensemble filmées par une femme non plus, donc je ne sais pas.
Bah si, Elle-Word. The L-Word.
J'ai pas jamais vu L-Word.
Enfer et damnation.
Mais toujours pas, je peux pas être partout, donc toujours pas, mais je vais y aller pour aller voir ça, filmé par une femme.
C'est beau, hein. Ça donne envie.
Moi, je trouve que je sais pas s'il y a une spécificité, mais c'est-à-dire qu'on partait de tellement loin quand même sur les femmes dans les séries télé. Enfin, je rappelle juste que dans les années 60, les héroïnes femmes, c'était des femmes qui n'existaient pas. C'était Ma sorcière bien-aimée, c'est-à-dire que c'était un personnage complètement dingue, c'était une sorcière. Quand même, ça en dit long sur l'image qu'on avait des femmes. Dans les années 70, si je résume, c'était Les Drôles de Dames, c'est-à-dire qu'on rentrait un peu plus dans la réalité. La nouveauté, c'était surtout que elles étaient trois et que c'était plusieurs héroïnes ensemble et qui faisaient un travail.
Elles étaient libres.
Ouais, et elles avaient des beaux cheveux quand même. C'était comme ça l'idée, c'est qu'on nous disait c'était une série qui était pas féministe, mais c'était une série comme qui c'était assez drôle de nous dire tiens pour une fois on va donner les premiers rôles à des femmes. Bon d'accord, on va les mettre en t-shirt et on va leur faire du brushing fer à fossette, mais quand même c'est des femmes. Donc ça c'était une évolution, c'est Aaron Spelling qui avait lancé ça. Et puis ensuite il y a eu les années 80 où on s'est dit tiens la femme elle peut peut-être être l'équivalent des hommes. Alors on va commencer quand même par des garces plutôt que des femmes sympas. Donc c'était quand même Joan Collins dans Dynasty, c'est Alexis.
On l'aime.
Mais c'était génial. Cette femme arrivait pour dire, mais arrêtez, la nouveauté de la fin des années 70, c'était de dire, le pire des salauds, c'était J.R. Ewing dans Dallas. On nous disait, tiens, c'est la première fois que vous allez adorer un salopard. Et là, aux années 80, Aaron Spelling dit, moi, je vous dis, vous allez adorer la même chose, mais chez une femme. Alors bon, c'était une évolution aussi, surtout quand même, elle manipulait son monde, alors avec tout ce qu'il y avait de glitter et tout ça, qui n'était pas toujours crédible, mais qui la rendait
sans savoir. Aujourd'hui. C'est une sainte femme, cette femme.
Elle est géniale.
Comme Swellen. C'est respect. Il baise les pieds.
Et puis après, on a évolué. Les garces, on en a gardé un peu dans Melrose Place. Il y avait Amanda Woodward, etc. Mais on a trouvé aussi qu'ils ont commencé à évoluer en nous montrant des femmes qui étaient peut-être un peu plus de la vie quotidienne. La star, quand même, au début des années 90, c'était Roseanne, quand même, qui était à l'opposé de Alexis Colby. Donc, petit à petit, quand même, les femmes, elles ont gagné leur place, une place qu'elles auraient dû avoir depuis longtemps. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est arrivé, puis petit à petit, Sex and the City, elles ont parlé de cul. C'est nouveau. Ally McBeal, elle avait des fantasmes. Waouh! Et c'est incroyable, cette femme. Donc aujourd'hui, elle est le résultat pour moi. Je ne sais pas si elle a des spécificités, mais elle est le résultat quand même d'un très 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 long process qui les a amenés sur le devant de la scène et effectivement avec plus ou moins de qualité. Et souvent, effectivement, je suis d'accord avec Virginie, en fonction de qui est derrière la plume, qui tient la plume. Est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme? On est quand même souvent sur ce rapport-là. Donc Killing Eve, je trouve quand même que ces deux personnages féminins, pour le coup, aujourd'hui, elles sont. On n'est plus en train de dire, regardez, c'est des femmes. On est en train de dire, il y a quand même un jeu entre elles, etc. Petit à petit, je trouve que le gain, il est dans le fait qu'on se dit plus est-ce que ce sont des femmes ou est-ce que ce sont des vrais personnages intéressants qu'on a peu approfondi jusqu'ici, sûrement.
Ok. Voilà. Dans les séries de références, il y en a deux que vous aviez à peu près en commun. Damages et Big Little Lies. Big Little Lies, ça me permet de dire au passage que c'est David E. Kelley et c'est aussi Ally McBeal. Et c'est un mec qui a été reconnu pour être l'un de ceux qui écrit le mieux les femmes.
Non, mais ça, je suis d'accord. C'est-à-dire que quand je dis comme ça, je me déteste moi-même parce que ça voudrait dire que... Enfin, c'est le principe d'être un artiste et d'avoir à écrire. C'est pas ton sexe qui détermine que. Mais si tu veux, la récurrence, le fait que ce soit un métier au fur et à mesure un peu moins, mais globalement tenu par des hommes, qui passe que par le prisme de l'homme, qui est en plus un certain homme, c'est même pas très large comme projection masculine. Tu vois, c'est en gros l'homme blanc, le caucasien blanc de 40 ans, quoi. Bon bah, c'est un bout de balcon. Tu vois, c'est une façon de voir le monde d'un bout de balcon, mais il y a plein d'autres balcons. Et à un moment donné, imposer ce bout de balcon pour voir le monde comme étant une vérité générale est asphyxiante. Ce bout de balcon est intéressant s'il y a d'autres bouts de balcon pour le compenser.
Claire.
Nous sommes plus riches les uns les autres. Aimez-vous.
Émilie, tes séries de référence avec des femmes, tu dois en avoir 700, toi.
J'en ai à peu près 700, mais si je devais en garder que quelques-unes, ce serait vraiment des séries où t'as un espèce d'esprit de limite de sororité. C'est-à-dire qu'en fait, tu te rends compte que ils te foutent des nanas qui, a priori, n'ont rien à foutre ensemble et qui, quand elles sont ensemble, arrivent à déplacer des montagnes. Moi, j'aime bien ce sentiment-là. Tu vois, c'est ce que tu peux avoir dans, effectivement, Sex and the City, où elles arrivent à révolutionner totalement les codes de comment on parle de sexualité à la télé. Tu vas voir ça sur Orange Is the New Black aussi, dans une moindre mesure, où leur seul point commun, c'est d'être en prison. Et en fait, voilà, elles arrivent un peu à s'entraider. Tu l'as aussi sur Desperate, même si avec le recul, j'ai beaucoup de mal avec Desperate. Voilà, quand tu le regardes, je trouve que ça a pas très très bien vieilli. Et t'as effectivement Big Little Lies, qui pour moi est une des meilleures séries de ces dernières années, avec une Nicole Kidman que j'ai redécouverte en femme battue par son mari, mais elle m'a fait pleurer, elle m'a fait rire, elle m'a fait tout. Cette série, si vous l'avez pas vue, regardez au moins la saison 1 qui est encore dispo sur OCS. Et d'ailleurs, merci OCS de laisser très longtemps tes séries, même si la saison 2 est arrivée déjà, t'as laissé la saison 1, merci. Voilà, c'est extraordinaire. Et moi, j'aime bien, voilà, ce côté un peu de bande de meufs qui font moins. De toute façon, c'est comme dans la vraie vie. Si nous, on se serre pas les coudes entre nous, bah, on est bien dans la merde. Donc, j'aime bien voir ça, moi, dans les séries.
Céline, les séries avec des femmes, c'est pour les femmes ou c'est pour tout le monde ?
Non, c'est pour tout le monde, bien sûr. Tu sais, moi, je suis grand fan de Big Little Lies. J'ai vraiment beaucoup aimé parce que c'était très bien écrit. La musique était folle. L'image sur la côte californienne, j'ai vraiment adoré. La saison 1, puisque la 2 est complètement pipeau, ça m'a rendu fou. Ça m'arrive de regarder des séries de femmes, tu vois. J'ai regardé Working Moms aussi sur Netflix. Saison 1 et 2, ça se regardait. La 3, elle est à nulle, zéro, inintéressante au possible. Il y a un petit problème d'identification, tu vois, je peux pas toujours me projeter dans ces personnages féminins ou qu'est-ce que tu veux que je te dise, une working mom, bon voilà, du coup je réfléchis par rapport à tout ça.
Ce que tu dis est hyper intéressant parce que c'est une des grandes problématiques pour lesquelles aussi la narration n'arrive pas à s'ouvrir, c'est que bizarrement, en fait, le travail de transfert de l'imagination est travaillé chez les femmes et chez les minorités dès l'enfance, dès le plus jeune âge, parce qu'en gros, quand t'es petit, quand t'es une fille, tu vas quand même te projeter dans Beyblade, dans Pokémon et adapter la structure de l'histoire à ton imaginaire pour poursuivre les histoires après dans ta chambre quand tu joues, etc. Et on a remarqué qu'en fait, et c'est là où tous les hommes doivent être féministes et que la problématique n'est pas que les femmes, mais justement un système de pensée qui empêche l'immense majorité des gens, c'est qu'en fait les petits garçons ont beaucoup plus de mal à faire ce travail justement dont tu parles de projection sur un personnage qui n'est pas lui ou qui n'est pas référent, qui n'a pas des références claires à lui, parce que dans la petite enfance, tout cet imaginaire est nettement moins travaillé. Et on empêche même souvent les petits garçons de se projeter dans un autre univers qu'un univers clos, débile et viril, quoi. Voilà. T'as vu comme t'as des vues, Philo ? C'est pas mal, hein ? C'est pas du tout le sujet.
Non, c'est hors sujet, mais c'est intéressant. Sur le casting, moi je dis juste un mot sur Laura Dern de Big Little Lies. Parce que, quand même, Laura Dern, quelle actrice, quoi. Elle est dingue. Elle est exceptionnelle. Je l'adore.
Excusez-moi, il y a Phoebe qui veut venir.
Ah, bah oui, on veut Phoebe depuis le temps. Ah, mais introducing Phoebe.
C'est fini.
Coxie n'est pas là, quoi. Super.
Bah si, il est là, en fait. Depuis le début, voilà, il est à côté de moi.
On a tous les quatre de la maison.
Super. C'est l'occasion de parler de Phoebe Waller-Bridge, qui a apporté beaucoup à l'écriture féminine.
Bien sûr. Bravo. Alors, moi, j'ai une question qui est plus sous forme de réserve, parce que moi, j'adore les séries avec des femmes et depuis longtemps, mais j'ai quand même une réserve et j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Je trouve que dans la grande majorité, elles ont tendance à répliquer à l'inverse les mêmes erreurs que les séries de mecs historiques, c'est-à-dire que dans une série mettant en avant des femmes, les mecs ont soit des rôles de débiles profonds, soit c'est les méchants, ou soit ils sont d'une inutilité absolue, crasse. Mais on n'a jamais de second rôle, et je dirais même qu'il y en avait plus dans ces séries d'hommes, avec des seconds rôles de femmes un petit peu denses, un peu intéressants. Et je trouve que les séries de femmes ont plus de mal à faire ça quand je fais le tour du sujet. Mais je sais déjà que Virginie n'est pas d'accord avec ça.
Mais non, le cinéma, les séries, jusqu'à il y a pas si longtemps, sont pleines de gonzesses qui ont rien à jouer à part bouger leur petit cul et montrer leur jolie figure. Et en dépit de ça, t'en as qui ont réussi à faire des carrières formidables parce qu'évidemment, elles étaient plus que ça. Mais donc, c'est toujours intéressant parce que c'est toutes ces questions. Quand deux femmes parlent entre elles dans un film, généralement, c'est pour parler d'un mec. Tu vois, elle parle pas d'autre chose.
Comme dans la vraie vie, quand je vais au café, j'entends ça, tu vois. À chaque fois qu'on parle de test, comment il s'appelle, test Bechler, Becherel, je sais pas quoi. Le test féministe, tu vois, qui est utilisé. À chaque fois que je lis des articles dessus, je me dis, mais viens, on va au café vraiment. Écoute de quoi elle parle sur les tables d'à côté. Non, non, non. Tu vois,
ah donc, c'est. On ne fait pas que parler de la con. Vous occupez une partie
je
de notre
sais bien.
Il y a plein d'autres sujets. Et puis, il faut voir. Non, mais par exemple, moi, un truc qui m'a toujours manqué, c'est que je n'ai jamais vu une série, un film, qui parle des mecs comme moi, j'en parle vraiment avec mes copines. Ça, je le dis, il y a encore du boulot à faire, quoi. Et la vérité, et je comprends parce qu'il y a quelque chose de très effrayant en face, c'est que, en vrai de vrai, je crois que les gonzesses sont 10 fois plus trash que les garçons. Bien souvent, quoi.
C'est le cas dans Sex and the City, hein. Sex and the City, ouais, ça représente exactement.
C'est Sex and the City, en
ouais,
vrai.
C'est vrai que ça. Mes meilleurs amis, le film Mes meilleurs amis est monté d'un cran. Mais c'est vrai qu'on est beaucoup plus trash que vous, les mecs, hein.
Tournez un truc, les filles. Allez-y. Montrez-nous, quoi.
Proportion à nous voir en princesse, en jolies choses.
On va faire ça. Tu dis, Virginie, mais... on va écrire une série qui va vraiment montrer ce que font les nanas quand les mecs sont pas là vous n'êtes pas prêts.
On nous présente mal et on représente mal la réalité de nos conversations, mais allez-y.
Ça n'a pas très bien marché, hein, Planqueur sur Netflix.
Non, mais
tu ne touches pas à Planqueur.
C'était du mot, je pense. Ça devrait dépendre Célim dès maintenant. Je pense.
Tu ne touches pas à Planqueur, on a dit, Célim.
Promis, j'y touche plus.
Mais au même titre qu'une conversation entre mecs, je ne suis pas sûr que ça puisse faire une série Netflix. Est-ce qu'une conversation entre femmes, ça peut faire une série Netflix?
Non, mais je veux dire là. Tu sais, c'est les projections de personnages. C'est-à-dire qu'on est quand même toujours dans des archétypes. Tu parlais de Sex and the City. Si on ramène ça, par exemple, Sex and the City est une des premières séries qui a ouvert des rôles aux homosexuels, tu vois, ou qui soient représentés vraiment. Bon, on était quand même sur un marché de niche, quoi. Tout le monde n'est pas obligé d'être coiffeur, un peu folle hystérique, tu vois. Donc, chez les bonnes femmes, je trouve qu'on est encore beaucoup par archétype. Et par exemple, c'est con. Mais moi, j'aimerais une héroïne, j'aimerais qu'on me sorte une gonzesse qui soit l'équivalent de Bruce Willis dans Des pièges de cristal, tu sais, un peu laid back avec la bonne petite phrase qui va bien, tu vois. Et on est souvent quand même sur des personnages.
Ripley dans Alien, d'accord.
Non, beaucoup, elle est beaucoup moins laid back que Bruce Willis. Elle
ouais,
est
badass aussi quand même.
Non, mais elle est badass, ouais. Elle est badass, mais on est pas loin de l'hystérie.
Rey dans Star Wars,
ouais.
Badass
petit à petit, on va y arriver. Mais il y a des archétypes, quoi, qui sont très forts. C'est pour ça que moi, j'adorais Damages, c'est que c'est des femmes hyper fortes, hyper costauds et qui vont à la castagne et qui sont brillantes et qui n'ont pas à choisir entre leur physique, leur intelligence et leur carrière. Je trouve ça plutôt intéressant.
Alors, dans cette série-là, il y a la série que je mets à toutes les sauces parce que je la regarde depuis le début du confinement et je suis pas encore au bout, The Good Wife et The Good Fight qui suit et qui quand même met en scène des femmes et intelligentes et belles et badass et tout ce qu'on veut. Donc quand même, c'est en train de gagner du terrain. Oui. Donc on comprend
aussi... Ouais, t'as aussi How to Get Away with Murder, Scandal ou encore The Catch, donc qui sont des séries créées par Shonda Rhimes. The Catch, que j'avais adoré, j'ai pas compris pourquoi ça ne continuait pas. Où Shonda Rhimes, à chaque fois, elle essaye de te mettre en avant. C'est-à-dire que c'est toujours une héroïne. C'est-à-dire que même dans Grey's Anatomy, ça s'appelle pas comment il s'appelait, Docteur Mamour. Bref.
Derek.
Ouais, c'est Derek Shepherd, c'est pas Shepherd Anatomy, c'est Grey's Anatomy, c'est centré sur Meredith Grey.
C'est un peu un alibi.
Non, c'est le personnage central, How to Get Away with Murder, t'as rien si tu n'as pas Viola Davis.
Ah ben oui.
Si tu n'as pas de série, Scandale, rien. Voilà, Scandale, tu n'as rien si tu n'as pas Kerry Washington.
Et ça, Revenge, pour le coup, c'est... Revenge, tu n'as rien si tu n'as pas Emily Van Camp.
Qu'on déteste toujours.
Je confirme mon analyse de la dernière fois. Donc, Emily Van Camp chuchote, elle ne sait pas parler. Donc, dans toutes les scènes, elle chuchote, elle
est ridicule. C'est une femme, elle est discrète.
On préfère Madeleine Stowe. Stowe, on l'aime.
Ah ouais, bah oui.
Bien sûr. On l'a pas revue depuis 10 ans, je sais pas quoi elle ressemble. Bref, les enfants, je crois que c'est terminé.
On
a du retard. Mais ouais, ça va trop vite. Je négocie encore pour avoir 2 heures d'émission, hein, mais c'est pas facile. Bon, vous avez été super. Comme d'hab, je vous kiffe.
Merci.
Je sais pas comment je vais faire un mois sans vous. Je ne sais pas. Pour tous ceux qui nous écouteraient, peut-être il y a des gens qui nous écoutent. Je me rends pas compte. Vous pouvez nous commenter sur les réseaux sociaux. Beta Series, oh my god, c'est le hashtag. Vous pouvez nous écouter en rediffusion sur Beta Series, la radio, ou en podcast sur toutes les plateformes. On est facile à retrouver. Vous allez voir. On se voit très vite, les amis. Ciao.
Ah oui. Oui.
Oh my god, l'émission décomplexée sur les séries, présentée par Eric Maillard et sa bande sur Beta Série, la radio.